Ça y est, le carême a commencé. Voilà que s'ouvre pour nous le chemin où nous accompagnons Jésus qui monte à Jérusalem. Il va y accomplir le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Et ce chemin spirituel, n'est pas tant une loi à observer qu'une rencontre, avec la personne de Jésus pour l'accueillir et pour le suivre. Mais pourquoi ces 40 jours de pénitence? D'où ça vient cette idée de 40 jours de pénitence? Eh bien, ces 40 jours de pénitence sont un écho des 40 jours que Jésus passa au désert où il vainquit le tentateur. C'est un écho de ces 40 jours au désert où Jésus éprouvé a vaincu le tentateur pour que nous entrions dans sa victoire, pour que nous entrions dans la victoire de Jésus, dans la victoire que Jésus obtint dans son humanité sur le tentateur. Ah oui, mais ça pose une autre question. On comprend pourquoi le chemin, mais c'est quoi cette victoire? C'est quoi cette victoire de Jésus que nous sommes appelés, que nous sommes invités à nous approprier? Ben, le tentateur avait instillé dans la vie humaine l'angoisse sur la bonté de la vie humaine et l'angoisse sur sa destinée. À l'origine, dans le plan de Dieu, la vie humaine se fondait, se déployait sur une bénédiction du Dieu Père. « Je t'ai fait à mon image, disait Dieu, et avec ma grâce, cette image va devenir belle et ressemblante. » Et voilà que le tentateur nous a plongés dans l'inquiétude. Vous vous souvenez du jardin de la Genèse? Dieu veut-il vraiment votre bonheur? N'est-il pas un obstacle, lui qui ne veut pas que vous touchiez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il met dans notre cœur cette angoisse. De quoi dois-je m'emparer pour atteindre ma vraie grandeur si Dieu est un obstacle à mon déploiement? Et voilà que le tentateur nous fait oublier qu'à l'origine de notre vie, il y a une bénédiction. Le tentateur nous fait désespérer de ce que Dieu veut nous donner, de goûter à sa propre vie. Et Jésus, justement, déjouant le tentateur, nous ramène à la capacité d'être fils, d'être béni du Père, d'être bien-aimé du Père. Et nous pourrions chacun de nous nous interroger, est-ce que j'ai conscience d'être fils du Père? Est-ce que j'ai conscience d'être bien-aimé du Père? On peut faire un petit test d'ailleurs pour voir si nous en avons conscience ou pas. Je ne vais pas vous demander de lever la main là cette fois-ci, rassurez-vous. Mais je vais vous demander de faire le petit test suivant. Souvenez-vous de la peut-être dernière fois où vos parents vous ont dit qu'ils vous aimaient. J'espère que vous avez pu avoir cette expérience. Si vous n'avez pas eu cette expérience avec vos parents, quelqu'un qui était cher et qui vous a dit « Je t'aime, tu es mon bien-aimé ». Rappelez-vous de la joie que vous avez éprouvée à cette parole, même si elle est ancienne. Rappelez-vous de comment vous avez senti votre cœur battre. Comment, après cette rencontre, vous êtes parti d'un pas plus gaillard. Alors, si vous avez fait cette expérience dans votre humanité et que vous dites, au sujet de Dieu, Dieu qui me dit Père et qui me dit je suis ton Père, tu es mon Fils bien-aimé, peut-être que ça provoque pas la même réaction. Ça signifie justement que je ne suis pas encore entré dans ce mystère. Voilà que l'œuvre du tentateur dans le monde, l'œuvre du tentateur dans mon cœur me tient éloigné de la prise de possession de notre vocation, de la prise de possession de la joie d'être fils bien-aimé du Père, appelé à partager sa propre vie. Et l'œuvre de Jésus est justement que nous puissions nous réapproprier cette bénédiction, cette filiation et la joie qui va avec. Vous voyez, dans l'évangile de Saint Luc, il y a vraiment une insistance sur le devenir fils de Dieu. La généalogie qui est donnée de Jésus va insister sur cette filiation divine et qui était promise à Adam, Adam fils de Dieu, lorsqu'il est noté. Et vous vous souvenez aussi que c'est bien là l'œuvre du tentateur qui posera la question « Si tu es fils de Dieu ?» Il est vraiment celui qui met en doute cette filiation et qui veut nous amener sur des chemins qui nous en fait perdre la joie. L'œuvre de Jésus, donc, c'est une œuvre contre l'absurdité de la vie. Absurdité de la vie parce que je ne me sais plus aimer. Contre l'angoisse productiviste du qu'ai-je accompli dans ma vie. Parfois les circonstances ne me permettent pas aux yeux des hommes d'accomplir grand-chose. Et donc j'ai l'impression que ma vie s'enfuit et qu'elle se rate d'une certaine manière. L'œuvre de Jésus est une œuvre pour la conscience d'être aimé, pour la conscience de pouvoir aimer, pour la liberté de faire de chacun de nos actes de nos vies un acte d'amour, de transformer peut-être même chacun des actes de nos vies en un acte d'amour, même dans la maladie, même dans l'impuissance. Et voilà que nous avons entendu dans la première et la deuxième lecture une autre insistance. L'insistance que cela commence maintenant. Vous êtes encore vivant ? Voilà, bien. L'insistance que ça commence maintenant. On avait entendu ceci dans la deuxième lecture, c'est le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Maintenant est un temps de grâce. Ce jour du mercredi des cendres est un temps de grâce. Le signe des cendres que nous allons recevoir vient justement le manifester. Autrefois, au moment de l'imposition des cendres, lorsque j'étais adolescent, j'aimais pas beaucoup, au moment de l'imposition des cendres, la formule « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras la poussière ». Alors généralement, le prêtre de ma paroisse, il disait ça une fois sur deux, donc j'avais 50% de chance, mais il y a des fois où je me disais « J'ai pas de chance, je suis tombé sur celle-là ». Et en fait, j'allais dire pourquoi est-ce que ça m'ennuyait, j'avais l'impression de réentendre la phrase de l'Antiquité gréco-romaine. Vous savez, le général victorieux, dans son triomphe, il y avait un esclave qui lui soufflait à l'oreille « Souviens-toi que tu es un homme ». D'une certaine manière, souviens-toi que tu es un homme mortel pour que la gloire ne te monte pas à la tête. Et j'aimais pas trop ça, du coup. Aujourd'hui, je l'aperçois différemment comme une parole de grâce et une parole d'autorité adressée par le Seigneur à ce qui est endurci en moi, à ce qui est endurci en nous, à ce qui résiste à la conversion, au poids de l'histoire encrassée qui semblait avoir le dessus. Et quand le Seigneur, j'allais dire, à travers ce rite, s'adresse à nous en disant « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière », je le reçois comme une parole adressée à ce qu'il y a d'endurcissement, d'orgueil, de désespérance, et que je n'arrive pas, par ma propre force, à déplacer, à faire tomber. Et c'est l'autorité du Seigneur qui, du coup, s'exerce. Mur d'égoïsme. Mur d'absence de foi, mur de désespérance. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et cette parole d'espérance, elle nous est adressée à chacun de nous. Et cette idée de retourner en poussière, souvenons-nous, c'est quoi la poussière ? C'est ce que Dieu a façonné à l'origine, justement, pour faire l'homme. Et donc ce mur qui est tombé, il permettra aussi d'être refaçonné, justement façonné, alors que nous avons été parfois défigurés, déformés. C'est une parole de grâce qui nous sera adressée, qui nous sera partagée avec l'autre parole de grâce. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile au moment de ce signe de l'imposition des cendres. Aujourd'hui donc, il nous est donné l'opportunité et la grâce, la force d'entendre Dieu qui se révèle. Aujourd'hui, il nous est donné de choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Aujourd'hui, le royaume de Dieu se fait tout proche pour que nous croyions à l'Évangile. Aujourd'hui, participer à cette liturgie de la messe des cendres signifie plonger nos vies dans le mystère de Jésus, entrer sur ce chemin dans lequel nous entrons dans sa mort et sa résurrection pour avoir la vie. Eh bien, je vous invite, là peut-être chacun dans le silence de notre cœur un instant, à dire « Seigneur, je te choisis. Seigneur, je te choisis. Je vous laisse 4 secondes là pour dire dans votre cœur, Seigneur, je te choisis. Et Seigneur, tu nous donnes 3 armes sur ce chemin du carême. Tu nous donnes les armes de l'aumône, de la prière et du jeûne. Et je voudrais vous dire un mot sur cette arme du jeûne. Le jeûne, ça signifie littéralement, c'est l'abstinence de nourriture. Mais c'est une réalité matérielle qui est le signe extérieur d'une réalité intérieure. C'est quoi cette réalité intérieure ? C'est une prise de conscience et un appel. La prise de conscience, c'est que d'ordinaire, je me donne ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour manger, je vais aller chercher ma nourriture. Je me donne ce dont j'ai besoin, j'organise ce dont j'ai besoin pour vivre et j'ai la capacité de me l'approprier. Mais voilà que la prise de conscience, c'est que ma vie dépasse ce que je suis capable de m'approprier et de produire. Il y a des choses que je ne peux pas avoir et qui sont pourtant essentielles. Ne serait-ce que le fait que je vieillis, que je peux tomber malade, mais même plus profondément, le fait que je suis heurté à une incapacité d'aimer parfois. J'arrive pas à aimer comme je le voudrais, et je fais le mal que je voudrais pas. Et donc le signe du jeûne, que va-t-il dire ? C'est d'habitude, je vais m'approprier ce dont je crois avoir besoin, mais je me rends compte, Seigneur, qu'il y a des choses que je ne peux recevoir que de toi pour avoir la vie véritablement. Et donc je suspends ce mouvement où je m'approprie ce dont je pense avoir besoin pour manifester « C'est toi, Seigneur, qui peux me donner cette vie. C'est toi, Seigneur, seul qui peux me donner cette grâce. » Et je le manifeste en suspendant cette nourriture. J'étais dans un mouvement où je fais, je produis. Et j'entre dans un mouvement, je fais de la place pour dire « Je reçois, je dois recevoir de toi, Seigneur. » Je dois recevoir de toi. Et du coup, ça devient un appel. Seigneur, je me rends disponible, je fais de la place. Je fais de la place, je cesse de m'approprier. Je ne noie pas la fin de sens, la fin d'aimer, par ces choses qui ne nourrissent pas vraiment. Parfois, je fais des excès de nourriture, je fais des excès d'alcool, je fais des excès d'écran. J'essaie de noyer cette faim fondamentale. Eh bien, Seigneur, je la suspends, mais toi, viens. Toi, donne-moi ta grâce. Je fais de la place pour que tu viennes. Et dans le temps que nous pouvons gagner à travers le jeûne, il y a une chose que je vous invite à faire. Dans ce temps du carême, relisez un évangile. Relisez un évangile. Devenez familier peut-être de l'évangile de Saint-Luc, c'est notre évangile cette année. Devenez familier de l'évangile, parce que cette mise à disposition, ce vide que nous faisons, ce n'est pas pour rester vide, c'est pour être rempli de Dieu. Mais suivre le Jésus, si on ne sait pas comment il a vécu, comment voulez-vous le suivre ? Il y a vraiment quelque chose de très simple, de prendre un évangile et un petit marque-page. Et chaque jour, j'en lis un bout. Et le lendemain, je reprends. Peut-être avant de me coucher, peut-être en me levant. Mais c'est une chose toute simple, peut-être au moment du repas, justement, si mon repas est plus rapide. Et j'avance dans cette lecture de l'évangile pour suivre le Christ. Comment puis-je aimer si je ne connais pas ? L'Évangile est un moyen pour connaître le Seigneur. Et peut-être même que j'aurais économisé un peu d'argent en limitant ce que je mangeais. Eh bien, j'aurais l'occasion d'avoir un pouvoir de faire l'aumône, de partager cette ressource, de le donner à un nécessiteux. Le Seigneur nous donne les armes du jeûne, de la prière et de l'aumône. Dieu notre Père, en ce premier jour du carême, nous voulons saisir l'invitation de Jésus à le suivre. Affermis notre résolution en renouvelant la grâce et les engagements de notre baptême. Que ce qui est du vieil homme en nous tombe en poussière pour que nous revêtions le Christ, que nous soyons façonnés à son image. Que ce chemin vers Pâques nous transforme et nous permette de dire avec saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Nous serons alors pleinement les fils bien-aimés du Père, joyeux de nous savoir fils et bien-aimés, maintenant et à jamais. Amen.